LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Monsieur le sous-secrétaire d'État à l'agriculture vient de nous le rappeler, pour le mildiou, 3 sulfatages préventifs sont nécessaires, tout comme le mildiou. Cette maladie idéologique doit être combattue préventivement. Tout comme le mildiou, elle est due à l'action de germes morbides et de divers agents parasites. Ainsi, la pulvérisation des hommes, par les bouillies appropriées, est indispensable. Les écoles, dans ce cas, constituent le premier stade. C'est là, si vous m'autorisez cette métaphore, que les jeunes pousses n'ont pas encore atteint une longueur de 12 à 15 cm. La deuxième pulvérisation intervient peu avant ou peu après la floraison. Il s'agit évidemment des universités, des jeunes ouvriers. Et l'époque du service militaire est le meilleur moment pour l'appliquer et sauver l'arbre sacré de la liberté nationale de l'infection du mildiou idéologique. À l'apparition des systèmes en isme, socialisme, anarchisme, impérialisme, communisme, etc., les taches solaires ont commencé à pulluler à la surface de l'astre diurne. Dieu refuse d'éclairer les rouges. Nous devons préserver les parties saines de notre société et nous devons guérir les parties atteintes. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
Quand vient le fascisme en Europe ? Aujourd'hui, la marche vers le pouvoir. Costa Gavras, vous êtes réalisateur, vous avez notamment réalisé le film Z. Est-ce que vous vous souvenez, vous, la manière dont vous avez appris la prise de pouvoir des colonels en avril 67 ?
Je l'ai appris par mon ami Georges Saint-Prin, qui m'appelait à 6h du matin, un dimanche, en me disant, tu as vu ce qui s'est passé? Je dis non, je ne vois pas. Il m'a dit, les colonels ont pris le pouvoir à Athènes. Voilà. Et bon, on s'est rencontrés très vite, notamment à midi avec Georges, avec Montand, Signoret, comme on le faisait souvent le dimanche, pour déjeuner. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Et comme moi j'avais le livre de Vassilikos sur l'assassinat du député Lamarck qui s'entre les mains, je dis à Georges, tu connais l'histoire? Il la connaissait. Il n'était pas encore traduit en français le livre. Je dis, on peut peut-être faire le film. Comme ça, c'était une réaction quasiment immédiate. Et ben, c'est parti comme ça, le film. Quelques jours avant, moi, j'étais en Grèce. Et mon frère m'avait donné le livre en me disant, lis-le. Et pendant les voyages, j'ai lu une partie, c'était un vendredi. Et samedi, j'ai fini la lecture du livre. Au début, ça ne m'amusait pas beaucoup. Et puis après, j'étais pris par le livre et sa vérité. Et j'étais fasciné. Je disais, il faudrait peut-être un jour faire quelque chose, etc. Mais le faire en Grèce, c'était impossible. C'était impossible, et moi, je n'aimais pas beaucoup aller en Grèce, revenir, etc. J'ai travaillé en France. Et voilà. Et le coup d'État a déclenché une sorte de sentiment chez moi, je crois. Je pourrais dire que je me suis senti grec, très grec, depuis des années.
En Grèce, en Espagne, en Italie ou au Portugal, les mois qui précèdent l'arrivée des fascistes au pouvoir sont cruciaux. Un climat de violence s'installe, ou en tout cas, un sentiment de danger imminent. La peur d'une crise économique, d'un effondrement des valeurs. C'est aussi un moment d'intenses négociations, de compromis, pour favoriser l'émergence d'un sauveur qui saura sortir le pays de l'ornière. Parfois, il s'impose naturellement. Dans d'autres cas, le chemin vers le pouvoir est beaucoup plus tortueux et ceux qui y accèdent ne sont pas ceux à qui on aurait pu penser en premier lieu. Dans les années qui précèdent l'arrivée des colonels en Grèce, le pays se libère peu à peu du poids de la guerre civile et connaît une période de grande créativité artistique. Pourtant, les fantômes de la guerre civile sont encore présents. Les anciens membres des commandos d'extrême droite continuent d'être actifs jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir et de nombreux communistes sont toujours en prison ou en exil. Un événement va mettre le feu aux poudres et radicaliser la fracture politique qui existe déjà dans le pays. C'est l'assassinat du député Lambrakis en 1963 sur lequel nous revenons avec Yanis Mavroidakos, le fondateur de la librairie grecque Desmos à Paris.
En 1963, il y a l'assassinat de Grigoris Labrakis. C'est qui a donné le film Z et les livres d'abord de Vassilico Z. Le film Z, même si je le vois maintenant, je le trouve, il l'a fait au King Reed. C'est un film extraordinaire. Il a, vous pouvez le revoir sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Constantin Karamanlis, qui est au gouvernement, il comprend que l'État parallèle avec les palais dirige les affaires. Et il s'exile à Paris. Il devient d'ailleurs très ami avec Valéry Giscard d'Estaing.
Karamanlis, c'était donc le premier ministre de droite.
Constantin Karamanlis, c'était le premier ministre de droite. Mais il a compris que le pouvoir lui passait. Et il est parti ailleurs. Donc là, ça a commencé. Mikis Todorakis a organisé la jeunesse Lambraki, un mouvement qui a pris tout de suite, avec ses chansons qui étaient très engageantes, avec une force assez extraordinaire, comme il avait ses personnages, là, il avait une force, un magnétisme assez extraordinaire, un charisme extraordinaire. En même temps, en 1963, Georges Seferis a le prix Nobel. On a une littérature donc extraordinaire et on a un gouvernement Papandréou, Georges Papandréou, centre démocrate. À 65, donc, il y a le renversement du gouvernement Papandréou. Et donc, depuis 65, si vous voulez, on ressent que quelque chose va se passer. Il y a des manifestations massives tous les jours. Et il y a l'assassinat d'un étudiant qui s'appelait Sotiris Petroulas, dont Mikis Todorakis a fait une chanson extraordinaire. Et puis, bon, il y a des gouvernements qui se succèdent jusqu'au moment où on préparait des élections pour les mois de mai et on a eu le coup d'État au mois d'avril, le 21 avril. Donc, tout ce. Et comme il l'a dit un des colonels de la junte qui s'appelait Patakos, on va mettre le pays dans les plâtres, comme s'il y a une quelque chose pour les guérir.
Une jambe cassée, ouais.
Et on va donc mettre tous les pays sur les plâtres ou sous glace. Donc, tout était glacé.
S'explique.
Qui c'est?
C'est le nouveau visage de l'opposition. Avant lui, c'était le désert. Les jeunes sont avec lui, il plaît aux femmes.
Communiste?
Oh, sûrement pas. Il cherche à dégager le pays des influences étrangères. Aux prochaines élections, il ramasse tout.
Il a de la gueule.
Quoi?
Il a de la gueule.
Champion olympique dans sa jeunesse. Médecin, professeur à l'université et député à l'aide. Conflit.
Est-ce que vous pouvez nous faire le récit de cet assassinat et puis du procès de Lambrakis, Costa Gavras?
Non, mais l'assassinat s'est passé d'une manière un peu comme on le voit dans le livre. Ce triporteur est surgi, il a tapé sur la tête et il est tombé. Et on a tout fait.
À la sortie d'un meeting, donc.
Comme on le voit dans le film, c'est ça, comme on le voit dans le film. Une voiture attendait pour l'amener à l'hôpital, c'est-à-dire pour le finir si le besoin en était.
Monsieur le directeur de la police!
Ce qui est très frappant, c'est la complicité non seulement de la police, mais de ce qu'on pourrait appeler des milices, je ne sais pas quel terme vous employerez, qui sont là à Thessalonique et qui vont faire tout le...
Non, il y a une pyramide. La pyramide, c'est le palais royal, notamment la reine. Ensuite, c'est le premier ministre.
C'est Karamanlis,
d'un parti de droite qui est aussi royaliste, profondément royaliste, et obéit complètement au palais. Et ensuite, l'armée est sous la direction du roi, donc du palais également. On disait du palais, d'ailleurs, on ne disait pas du roi, du palais. Et les militaires de haut niveau sont nommés par le palais, donc sont fidèles entièrement. Tout est contrôlé. La justice est contrôlée aussi, de la même manière, puisque les juges de très haut niveau sont nommés par les ministres. Et les ministres appartiennent au Premier ministre, et le Premier ministre appartient au Palais Royal. Bon, politiquement, le pays est cadenassé complètement. Pour arrêter tous ces mouvements qui commençaient chez les intellectuels, après chez le peuple, et puis chez les juges un peu partout, la seule façon, c'était de faire intervenir les militaires pour contrôler complètement le pays d'une manière, alors cette fois-ci, militaire, voilà. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'un juge, qui est aussi fils d'un bon magistrat, c'est-à-dire de droite aussi, décide un jour de ne pas obéir.
L'affaire serait simple si on la stoppait au niveau de l'accident de circulation produit par deux ivrognes. Seulement, ce n'est plus possible. Par contre, si nous admettons l'existence d'une préméditation organisée par un groupe, ce groupe étant aidé ou simplement toléré par la police, tout redevient clair et tout se tient.
Ce que vous me dites est très grave. Et je vais en informer immédiatement le ministre. Mais mon sentiment est qu'il faut s'en tenir à la thèse de l'accident. Prémédité, si vous voulez, par deux fanatiques. Ivrogne de surcroît. Croyez-moi, il faut arriver à une conclusion rapide. La ville, le pays, je dirais même le monde, sont tournés vers vous et attendent. L'honneur de notre pays est en jeu. Et cessez d'interroger ce minable. Vous êtes jeune, plein d'avenir, avec entre les mains une affaire qui peut vous porter très haut ou briser votre carrière.
L'assassinat de Lambrakis, ça a eu un grand retentissement.
Joël Dallègre.
Quand même, assez grand retentissement international, dans la mesure où c'était un député, c'était quelqu'un qui avait été un champion olympique, enfin je veux dire, c'était quelqu'un de connu. Il était membre de toutes les associations pour la paix qui existaient à l'époque. Il avait participé à des manifestations pour la paix en Angleterre et un peu partout. Donc effectivement, c'était quelqu'un de connu. Et ça part effectivement des milieux d'extrême droite de l'armée, qui sont en fait plus à droite que le Premier ministre lui-même. Du point de vue des Grecs eux-mêmes, en même temps, je veux dire, ça leur a rien appris de nouveau. Hein, ils étaient déjà au courant de comment ça se passait chez eux. Par contre, c'est vrai que ça a alimenté encore plus les mouvements d'opposition. Ça a provoqué des grands mouvements de jeunesse qui ont vraiment été très forts. Et qui, après, sont là pendant toute la période des colonels.
On m'a frappé. Pourquoi ? Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence ? Pourquoi la paix leur est-elle aussi intolérable ? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à d'autres organisations et mouvements ?
Lambrakis était un personnage qui était différent des autres. Il ne sortait pas de la guerre civile. Il était indépendant. Il était de gauche, naturellement. Il n'était pas communiste. Et c'était un personnage nouveau. Et sa carrière, sa façon d'être, enfin, le fait qu'il avait fait des Jeux olympiques aussi, en fait, tout ça faisait un personnage intéressant. Et c'était un bon orateur aussi. Et il ouvrait une brèche tout à fait nouvelle dans le monde politique grec. Voilà, c'était ça. Alors, évidemment, son assassinat, qui a été, comme on voit dans les films, complètement caché par les autorités. Il y a eu une tentative de les cacher et il a été... Le travail des journalistes, finalement, était très important. Comme ça, on a fouillé à fond, on a trouvé les raisons. Et ça avait déclenché une sorte de sentiment très, très négatif pour le pouvoir et aussi pour l'intervention américaine. Parce que là aussi, on sentait qu'il y avait directement ou indirectement les doigts américains dans cette histoire-là.
Même aujourd'hui, on n'est pas sûr qui a ordonné l'assassinat de Lambrakis, mais...
Christina Koulouri.
C'était pas le seul événement qui montrait, peut-être c'était le plus dramatique, mais il y avait aussi une série d'autres événements qui montraient qu'il y avait un héritage obscur de la guerre.
Allez faire vos réunions en Russie. Si vous permettez, nous, on a décidé de rester ici.
Tu vas faire ce qu'on le dit.
Mais dites donc, vous.
Ce sont des gens de l'extrême droite, des nationalistes, des milices qui terrorisaient les gens. Vous comprenez que dans un petit village... Et tout le monde connaît tout le monde, donc les gens qui appartenaient à la gauche ou qui n'appartenaient pas à la droite étaient toujours menacés et terrorisés par ces gens qui étaient membres des milices. Alors c'était une expérience quotidienne. Et les gens avaient cette expérience de terreur.
Ces milices, elles ont servi ensuite sous les colonels, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur eux.
Alors, beaucoup de membres de la dictature de colonels avaient déjà servi dans ces groupes de complot, c'était toujours au sein de l'armée et qui croyaient que leur patrie était menacée par les communistes et donc ils préparaient leur résistance contre cette menace. Ils étaient non seulement actifs mais aussi tolérés, parfois instrumentalisés par des gens au pouvoir. Je crois qu'il y avait des gens, des hommes politiques, les élites politiques de la droite, qui avaient sous-estimé la menace de ces réseaux de l'extrême droite. Et dans le cadre de la guerre froide, ils avaient peut-être aussi besoin d'eux pour sécuriser leur propre pouvoir.
Nous vivons dans un pays où même l'imagination est suspecte. Et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant. On veut nous empêcher de parler. On veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent.
Là où Gracia Laca, vous étiez membre des jeunesses Lambrakis. Vous avez connu Lambrakis à l'époque?
J'ai la photo où je suis. J'ai amené son corps avec six autres personnes qui appartenaient à la jeunesse Bernard Russell. Je l'ai connu beaucoup de fois, j'ai mangé avec lui. Comme mon prénom c'est Laocratia, mon prénom ça veut dire pouvoir du peuple. Et les Russes m'ont appelé Narodovlastie. Les jours que la braque ici l'était, je devais passer les examens en biologie ici à Athènes. Et le professeur m'a dit, il est venu, c'est pas grave si tu ne vas pas écrire très bien. On a essayé Thier Labrakis. Il n'est pas mort encore. Va-t'en et tu vas prendre. Et il m'a donné 9, les meilleures notes. Et quand je suis sortie, et on a appris ça, on était, je ne suis jamais revenue à la maison, on était 3 jours dans la rue. Et les jours qu'on a amené son corps des Saloniques en train ici à Athènes, j'étais avec ma sœur toute la nuit à côté de la station et on nous a frappés. C'était incroyable. Et on avait quelqu'un d'autre qui était tué ensuite, après Sotiris Petroulas, oui, qui était ami, on était dans la même organisation avec lui.
Ce matin, nous allons sur la tombe du jeune Sotiris Petroulas, tué 6 semaines plus tôt, pendant l'une des nombreuses manifestations qui ont rassemblé des centaines de milliers de Grecs.
Ça aussi, c'est un moment important. C'est en juillet 65. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? C'est lors d'une manifestation?
C'était l'époque que le gouvernement de Papandréou était renversé. Chaque jour, on manifestait. Et moi, j'étais pas loin de Petroulas. Et on était là et on a entendu que Sotiris, il est mort. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors avec Miki Savodorakis, on est allé à une église qui est à Egaleon, où on a amené son corps. On voulait faire, on a enlevé les corps de Sotiris et on voulait faire quelque chose, on ne sait pas où les mettre. Et Miki Savodorakis, il a ramassé certains de la jeunesse et il nous a dit, prenez les pierres par l'église à l'extérieur, contre la police. La police était tout autour de nous. Et ils ont accepté de prendre son corps et de faire l'enterrement. C'était notre ami. Et Mikis l'a écrit tout de suite, la chanson.
Il a été tué par la police, Sotiris Petroulas.
La police par une... comment s'appelle ça, qu'on jette le molotov contre son visage, tout à côté. Une grenade, oui. Une grenade, tout pas loin, 1 mètre de lui.
Sotiris Petroulas. Sotiri Petrula. Se pire o labrachis, se pire ileftheria. Se pire o labrachis, se pire ileftheria.
Lettre du colonel Papadopoulos au président américain Johnson, datée du 6 janvier 1968.
Cher monsieur le président, j'estime aujourd'hui impératif de vous exposer officiellement et en toute responsabilité les causes, les buts et les perspectives de la révolution du 21 avril 1967. Notre pays est honoré comme le berceau de la démocratie. Mais le régime qui existait avant le changement actuel n'avait aucun rapport que ce soit avec la démocratie. C'était un régime de débauche factieuse, de démagogie illimitée et de corruption désintégratrice. Il y avait trois caractéristiques de base. Une chute rapide vers l'effondrement économique, une détérioration permanente de toutes les institutions et l'érosion menaçante des partis politiques, de la presse, d'une partie de la société et du gouvernement lui-même par le communisme. La révolution du 21 avril 1967 a eu lieu à la veille d'une guerre civile, le résultat inévitable des élections prévues pour le 28 mai. Ces élections, quel qu'ait été le verdict des urnes, n'auraient pas résolu la crise grandissante. Au contraire, elles auraient amené un climat explosif. Et au milieu du chaos cauchemardesque qui les aurait suivis, seul le Parti communiste, le seul groupe organisé hormis l'armée, l'aurait emporté. Ses tentatives persistantes pour atteindre la Méditerranée et annihiler le flanc est de l'OTAN auraient été couronnées de succès.
Mais ce qui était évident depuis quelque temps, c'est que la gauche gagnait du pouvoir de plus en plus, gagnait la population de plus en plus, et que mon jugement, c'est que le coup d'État a eu lieu précisément pour attester. C'était sûr maintenant qu'un socialiste, Papandréou, qui était un personnage assez intéressant politiquement, qui avait une carrière, un parcours assez honnête, je pourrais dire, d'aller prendre le pouvoir. Et je crois que les Américains ne pouvaient pas accepter ça à cette époque, parce que la position aussi des Grecs, c'était contre les bases américaines. Il y avait plusieurs bases américaines, et l'idée c'est que s'il y avait une guerre avec la Russie, les premiers pays qui seraient attaqués, c'était les pays où il y avait des bases, notamment, il y avait 3 ou 4 bases en Grèce, la Grèce est complètement liquidée. Voilà. Donc, c'est ce sentiment-là qui poussait beaucoup de monde, de dire, basta, avec les bases, il faut en finir avec les bases, et Papandréou avait pris la tête de ce mouvement-là.
La victoire de Papandréou, en 1964, il est devenu Premier ministre, le roi était vraiment irrité. Et donc c'est à cause du roi que finalement Papandréou a été forcé à partir.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Papandréou remporte les élections et le roi le démet en fait de son poste de président. Donc c'est un déni de démocratie déjà à ce moment-là.
C'est vrai, mais c'était le rôle de la monarchie grecque en Grèce était toujours pareil. C'était un modèle vraiment différent du modèle britannique, parce que le roi voulait être en fait un chef de parti politique. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3 rois, et Georges, Paul et Constantin. Tous jouaient le même rôle, c'est-à-dire ils voulaient imposer le premier ministre de leur choix, intervenir aux décisions politiques. Alors, la royauté, la monarchie en Grèce, était un agent politique actif et parfois fatal en Grèce.
Monsieur Papandréou ne peut pas sortir de chez lui sans provoquer des scènes de ce genre. Malgré les préoccupations qui l'assaillent, Monsieur Papandréou a tenu à nous recevoir.
Monsieur le Président, nous avons vu le peuple grec vous acclamer. Mais qu'est-ce que vous lui promettez en échange?
Je pense qu'il aime la démocratie.
Andreas Papandreou, 1965.
Ces manifestations ne sont pas pour moi. Elles sont pour bon idéal.
Est-ce que vous croyez, Monsieur le Président, dans l'éventualité d'un coup d'État?
Non, je l'exclus. Non, seulement des hommes insensés pourraient penser à cela.
Depuis la fin de la guerre civile, la Grèce est sous des régimes de droite qui succèdent, qui se maintiennent au pouvoir de plus en plus difficilement, c'est-à-dire en arrivant en 1961 jusqu'à truquer les élections, parce que sinon, ils les auraient perdues. Et finalement, en 63, ils perdent effectivement, la droite perd les élections, et il y a donc un gouvernement du centre qui est dirigé par Papandreou, Yorgos, l'ancêtre. Bon. Et le fait est que il n'est pas communiste. Son fils est beaucoup plus à gauche que lui, mais pas lui. Mais il suffit d'avoir quelques petites envies de réforme pour passer pour un dangereux communiste. Quand il parle de libérer, il l'a fait de faire libérer un certain nombre de prisonniers politiques, ça paraît déjà quelque chose d'horrible. Donc c'est vrai que, en fait, comme il tente de contrôler l'armée, qui est beaucoup plus à droite que lui, il finit par, en juillet 65, se faire éjecter par sa propre maladresse, c'est-à-dire que finalement, quand il demande quelque chose qu'il ne parvient pas à obtenir, il dit « c'est ça ou je démissionne ». Donc on lui dit « mais je vous en prie, monsieur, allez-y donc, démissionnez ». Et à partir de là, règne une sorte de chaos politique au sens où les gouvernements toujours de droite qui se forment ne se forment finalement que pour quelques semaines, ne peuvent rien faire. Pour avoir la majorité, sont obligés d'aller débaucher des gens du centre qui, moyennant quelques rétributions, un poste de ministre ou autre, se laissent débaucher. Et c'est des majorités qui tiennent quelques semaines et pas plus. Donc c'est une espèce de grand chaos politique. Et quand finalement on décide qu'il va y avoir de nouvelles élections, tout le monde se doute que effectivement le parti de Papandreou va gagner ces élections. Donc le but, c'est effectivement qu'elles n'aient pas lieu.
Parce que vous, Laocrasia, Laka, vous venez d'une famille qui était très engagée à gauche.
Oui.
Donc vous étiez surveillée, en tout cas particulièrement...
Toujours. On était surveillée toujours. Et comme mon père, il était exilé, et beaucoup de membres de la famille, ils étaient à Macronis, à Icarie, dans les îles fermées, quand je suis rentrée à la faculté, j'ai eu quelqu'un qui me suivait, qui était mon flic à moi, qu'on est devenu très amis avec lui. Et quand il avait une manifestation pour Vietnam, lui, il m'a dit, je comprends très bien que tu manifestes pour ton papa, mais manifester pour Vietnam, je ne vois pas. On avait toujours, et toutes les lettres, tout ce qu'on avait, on était obligé de les ouvrir à la police. Et chaque jour que je partais pour la faculté, on m'a frappé. Il y avait une organisation de jeunesse qui s'appelait ECOF, que nous on les appelait fascistes, qui dès que j'arrivais à la faculté de chimie, que je montais l'escalier, on m'a frappé plusieurs fois. J'ai passé à l'hôpital beaucoup de fois.
Donc ça, c'était dans les années 60, les années qui précédaient la prise, cette prise de pouvoir. Ça veut dire que vous me disiez, Laocrasia Laka, vous n'aviez pas conscience qu'il pouvait y avoir une dictature, mais par contre, cette tension politique, elle était déjà très palpable.
La tension était très, très, très grave, oui. Mais on était tellement liés, et beaucoup de jeunes. Et on avait Mikis Theodorakis comme chef dans la jeunesse de Labrakis. On avait un espoir et je ne vais pas oublier cette époque.
στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους στο τίμιο λαβάρο πάντα πιστή στη σαλπίδα πλάι μας προσκαλεί στο τίμιο λαβάρο πάντα πιστή στη σαλπίδα πλάι μας προσκαλεί.
Il y avait une certaine liberté formelle, mais très visible. Mais sous le fond, si on avait des idées un peu de gauche et puis faisait des histoires, on perdait sa place, par exemple. Si on travaillait pour l'État. Il y avait d'autres façons, d'ailleurs, si on avait une voiture, où on se trouvait toujours avec des PV. Sans raison. Une espèce de petite répression quotidienne. Par exemple, les gens achetaient le journal de gauche, qui n'était pas communiste, mais qui était à gauche, en le pliant. Et dans les kiosques, on vendait le journal, on les vendait en le pliant. Comme ça, on ne voyait pas que vous aviez ce journal-là. Cette petite répression, qui était... et la police aussi était très violente. Mais, à l'apparence, c'était la liberté. Les touristes y allaient, ils venaient, ils ne pouvaient pas voir tout cela. Les journalistes y allaient, certains journalistes y allaient, ils pouvaient fouiller un tout petit peu. Ils trouvaient quelqu'un comme Éric Rouleau, journaliste du Monde, par exemple, il écrivait des articles formidables parce qu'il écrivait la vérité. Voilà. Donc, la démocratie, pour l'Occident, existait. En plus, l'Occident, partout, on disait, oui, vous voyez, la Grèce est démocratique. Donc, la conviction, en général, dans le monde, était que la Grèce était démocratique. Mais dans le fond, elle n'était pas démocratique, c'est un pays sous répression. Moi, par exemple, pourquoi je suis venu en France ? Pour faire des études, je ne pouvais pas aller à l'université, parce qu'il fallait avoir un certificat de bonne conduite de la famille. Et comme mon père, anti-royaliste, a fait la résistance avec la gauche, qui était dirigée par les communistes, il faut dire, était considéré comme communiste, et ses enfants, jusqu'à plusieurs années après, ne pouvaient pas faire des études à l'université. Alors il fallait partir.
Je n'aimais pas cette violence, mais j'ai eu l'espoir que, comme beaucoup de monde, on a accepté nos idées. J'ai eu l'espoir qu'il aura vraiment les élections. Après la paix, on attendait les élections et on va gagner pas le Parti communiste, mais le Parti démocrate. Nous les jeunes, on croyait que ça va se passer comme ça. On était frappés souvent par la police. On n'avait pas peur. Mais la dictature, c'est autre chose, c'est le silence. C'est tout à fait autre chose qu'on ne pouvait pas l'imaginer, parce que la dictature a changé notre vie. Beaucoup de gens ont changé complètement après. Quand je suis revenue en 1974 en Grèce, il avait des amis qui étaient perdus complètement, qui ne voulaient pas nous voir. Ils sont restés ici, ils ne pouvaient pas souffrir, ils ont passé par la prison. Mais après, ils voulaient vraiment leur tranquillité, ils ne voulaient pas vraiment avoir les contacts avec les gens qui continuaient.
En Italie aussi, dans les mois qui précèdent l'arrivée de Mussolini au pouvoir, la situation se tend. Les gouvernements se succèdent, les grèves aussi, violemment matées par les fascistes, avec la bénédiction des industriels et des grands propriétaires. Face à cette violence généralisée, l'hypothèse d'une arrivée de Mussolini au gouvernement se précise peu à peu. Mais pour obtenir ce qu'il veut, le poste de président du Conseil, Mussolini sait qu'il doit encore augmenter la pression sur le roi. Avec Marianne Matarbonucci, spécialiste du fascisme, retour sur ces quelques mois où tout a basculé.
Alors le pays est, j'ai envie de dire, fatigué parce que il y a eu donc juste après la guerre 2 années d'intenses mobilisations et agitations sociales qui d'ailleurs ont abouti sur des conquêtes en termes de salaire notamment, qu'on a appelé le Biennio Rosso, les 2 années rouges, suivies des 2 années noires lors desquelles les squadres et les groupes paramilitaires fascistes ont systématiquement attaqué les organisations de gauche, les organisations syndicales et ouvrières. Et donc, depuis un an à peu près, une partie de la population s'est résignée, en quelque sorte, à la perspective qu'un jour un pouvoir fort arrive au pouvoir. Et Mussolini a œuvré en ce sens, en se rapprochant d'une partie des élites bourgeoises. Et dès, par exemple, le printemps 1921, les fascistes ont participé aux élections sur des listes dites de bloc national qui réunissaient les partis traditionnels et les fascistes, ce qui leur a permis d'entrer au gouvernement avec 35 députés. Donc, une stratégie sur deux jambes, légale d'une part, et usage systématique de la violence dans des proportions alors qui ne sont pas celles de ce que sera la guerre civile en Espagne en 1936, mais il y a quand même 3000 morts à peu près à la fin donc de cette période de conquête du pouvoir. Et sur ces 3000 morts, les deux tiers sont le fait de ces violences fascistes.
Au fond, que sont tous ces bolcheviques, dites ? Des semi-asiatiques. Voilà ce qu'ils sont. Des sortes de sarrasins. Des mongols, des subversifs. D'ici peu, si ça continue comme ça, la gare, ils vont nous avoir, je vous le dis. Prenons garde, ils nous prendront tout. J'ai raison, oui ou non ? Dites-moi, j'ai raison, oui ou non ? Parle, Piopine.
Tout ça, ce sont des mots, c'est tout. Je sais ce qu'il faut faire. Et tuer tous !
Non, nous ne voulons pas de violence. Ni de vengeance. Ce que nous voulons, c'est l'ordre. Nous sommes. Nous commençons une nouvelle croisade. Et nous devons insuffler le courage à nos jeunes. N'oubliez pas, nos jeunes n'attendent qu'un signe de nous.
Adunata! La rivoluzione fascista ha vinto! Andiamo a Roma! Ogni squadra al suo posto! Presto sul camion, ai vostri posti! Raccogliete tutto!
Et là, va s'ouvrir, si vous voulez, un système de pression politique en disant on va faire la marche Rome.
Didier, musée de Linck.
Dans un processus qui est un processus d'intimidation du pouvoir, pour les forcer à ce que Mussolini devienne un jour président du Conseil. Voilà, en gros, si vous voulez, la trame générale de cette affaire. Le roi l'appelle parce que lui, il estime que c'est la dernière carte qu'il peut jouer. En disant, au fond, les fascistes, ce sont des aventuriers, on va leur donner quelques strapontins, et puis ce sera fini. Et le roi, lui, dans toute cette affaire, comme il dit, moi, Mussolini, je le connais pas. En fait, vous avez, voyez, une opération qui est à un double couloir, en quelque sorte. C'est-à-dire une opération où on dit aux fascistes, levez-vous. Mais de l'autre côté, vous avez toute une négociation en coulisses qui est celle que préfère Mussolini. Parce que Mussolini, dans cette affaire, il est très loin de ce qui se passe. Il est à Milan. Le 26 au soir, il est comme par hasard au théâtre. Le 27 au soir, il est de nouveau au théâtre, très loin de ce qui se passe. Et le plus amusant dans tout ça, aujourd'hui, on pense que le 28, il est allé dormir chez sa maîtresse, Margherita Sarfatti, qui a une maison qui s'appelle le Soldo, qui a 41 kilomètres de Milan, qui présente un gros avantage, c'est que c'est tout près de la Suisse. Qui se dit, moi, si jamais ça tourne mal, je pars en Suisse, tandis que tous les autres resteront sur le terrain et seront victimes d'une répression de l'armée, vous voyez un peu. Et qu'en fait, la dénommée Margherita Sarfatti a joué un rôle parce que le Mussolini connaît un de ces moments de crise existentielle, il en a eu beaucoup, où il dit, j'y crois plus, et c'est elle qui était une femme de tête, qui était remarquablement intelligente, qui lui dit, tu vas y aller, il faut que tu y ailles, tu peux pas te dérober. Mais une femme exceptionnelle, hein, d'une culture extraordinaire, qui va ensuite abandonner parce que c'était un coureur de jupons invétéré, comme vous le savez, et puis elle avait un défaut majeur pour lui, elle était juive. Et quand les lois antisémites, évidemment, sont votées, il n'est plus question qu'il ait des rapports avec Margherita Sarfatti, qui était vraiment une femme d'exception.
Che uomo Mussolini! A Roma gli hanno offerto 6 portafogli e lui li ha rifiutati tutti!
Ha rifiutato i portafogli? Ma perché? Perché erano pochi!
Contrairement à ce que diront les fascistes, la marche sur Rome n'est pas une contre-révolution, hein, mais c'est un coup de force, donc, avec la complicité d'une partie des élites, pour mettre fin définitivement à cette vague donc, de mobilisation sociale. Alors, avec la complicité des élites, parce que le roi, c'est un point important, le gouvernement, le chef du gouvernement, en octobre 1922, facta, demande au roi de signer l'état de siège qui aurait permis à l'armée donc d'intervenir pour réprimer la marche sur Rome. Et le roi, après avoir accepté, se ravise et refuse donc et accepte de fait la voie de fait et le coup de force. Et donc cela montre que Mussolini a été très habile parce qu'il a su à la fois donc brandir la menace, mais en même temps, au cours de ces deux années, se ménager des soutiens et faire en sorte d'être considéré comme quelqu'un qui pourrait remettre de l'ordre dans le pays, remettre le pays au pas, en ordre de marche, les élites se font des illusions en supposant qu'elles pourront s'en débarrasser ensuite. Il y a l'idée qu'on va pouvoir jouer au plus fin, instrumentaliser les fascistes et Mussolini, mais c'est le contraire, en réalité, qui s'est produit.
Au Portugal, loin des violences de l'Italie préfasciste, Salazar, qui est ministre des Finances de la dictature nationale depuis 1928, prépare son arrivée au pouvoir secrètement, presque sournoisement. Ce n'est pas un leader charismatique. Il n'a pas de parti derrière lui, pas d'armée. C'est en rétablissant l'équilibre budgétaire du pays qu'il parvient à s'imposer au sein du gouvernement, qui lui offre en 1930, en plus des finances, le ministère des colonies. Une ascension inexorable, mais tout en discrétion. À l'image du dictateur, qui sait utiliser les crises politiques à son propre avantage, comme nous l'explique Yves Léonard.
C'est tout dans la manière d'être de Salazar, qui est un homme, effectivement, qui, dans son mode d'accession, ce qu'on a appelé sa longue marche vers le pouvoir, procède par à-coups, par accélération et décélération, par acceptation d'un destin lorsqu'il lui est contraire, pour mieux rester en place, mieux contourner l'obstacle et mieux repartir vers l'avant. Donc c'est toujours une tactique, une démarche dans cette phase d'accession au pouvoir qui tient compte à la fois de sa personnalité, parce que c'est un homme extrêmement secret, assez retors, qui ne lâche jamais, mais qui sait tactiquement quelquefois faire un pas de côté, du moins dans cette phase d'accession au pouvoir, et ça tient compte aussi de sa situation politique, parce qu'il n'est pas issu du sérail politique, il n'est pas militaire, il n'a pas de prestige personnel, il n'a pas fait la guerre, comme beaucoup de dictateurs de l'époque, et donc il lui faut composer avec sa personnalité et un contexte politique particulier. Alors, le côté de manière un peu sournoise, à certains égards, c'est la réalité. Il dit en 1928, lorsqu'il devient ministre des Finances, quand il prend possession de son ministère, il a 39 ans, il est connu des élites, mais pas médiatiquement très, très connu, donc les journalistes notent ses propos, et il dit en son discours d'investiture, « Je sais très bien ce que je veux et où je vais. faites des observations, faites des remarques, et quand pour moi le temps sera venu de commander, vous obéirez. On est en avril 1928, il déclare ça, tout le monde applaudit, merveilleux, il va rétablir la confiance et tout. Sauf que lui, il le pense vraiment. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs à propos des dictateurs. Un dictateur, il faut toujours le prendre très au sérieux, parce que il parle pas énormément, c'est des discours très calibrés, mais quand il déclare quelque chose, bah, il va le faire. Et ce que l'on prenait comme une espèce, je sais pas, une galéjade ou quelque chose, un peu de forfanterie, il va l'appliquer. Mais il va l'appliquer avec méthode, habileté, au sens où lorsqu'il a des revers, il a des tensions qui se manifestent, il sait composer. À partir de 1932-1933, la donne, elle, change. Et à partir de là, effectivement, son pouvoir devient de plus en plus net, perceptible, et se traduit en acte par une constitution, l'État nouveau, en 1933, par des instances qui sont faites pour lui donner, lui conférer une assise, et notamment par la police politique, par une justice aux ordres, par un système répressif, qui est la clé de voûte du système salazariste, et une administration d'État qui est totalement dédiée à cet homme qui, il ne faut pas commettre d'anachronisme, mais qui est une sorte de, on pourrait le qualifier un technocrate avant l'heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu par le biais de la technique financière. Il est professeur d'économie politique à l'université de Coimbra, il passe pour un, on l'a surnommé, le magicien des finances. Magicien, si on veut. Disons que ce sont des recettes qu'il applique, qui l'ont précédé, qui vont perdurer. Pratique de l'austérité, hein, c'est-à-dire, on coupe dans les dépenses, on augmente un certain nombre de recettes, on contrôle tout, tout le monde passe sous la toise. C'est pas quelque chose de très original. À la limite, en France, à l'époque, Raymond Poincaré fait à peu près la même chose en 1928. Donc c'est un homme qui part d'une technique, d'une maîtrise de la technique financière pour imposer un discours politique, une idéologie politique qui est tout sauf effectivement démocratique. Pendant la phase d'accession au pouvoir, il ne maîtrise pas tous les leviers. C'est-à-dire qu'il est ministre des Finances. Même s'il pèse sur l'ensemble du gouvernement, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Il n'est pas président du Conseil. À partir du moment où il devient président du Conseil, il a la main sur tout. Donc, cette violence qui est perceptible déjà sous la dictature militaire, parce que c'est un coup d'État militaire, et en gros, tous ceux qui sont opposants, les républicains parlementaires de l'ancienne République, eh bien, on les envoie en exil, on les oblige à se taire. Et très vite, en 1930, on dit ben, on va créer un parti unique. Donc ça, et Salazar est un peu à la manœuvre déjà. Mais la violence politique, cette violence qui va être au cœur du système salazariste, c'est-à-dire un système d'administration de la peur, comme on l'a désigné, ça se met en place progressivement à partir du moment où il est président du Conseil, surtout de la charnière 1933-1934, où là, on voit, et surtout dans le contexte de la deuxième moitié des années 30, on va dire le champ magnétique des fascismes, on voit se densifier, se codifier un certain nombre, se rigidifier un certain nombre d'instances qui sont là pour véhiculer et incarner cette administration de la peur, faire en sorte que les Portugais, quand bien même ils voudraient s'opposer, ne le puisse pas. Et ça, c'est un système très normé, très organisé, mais qui est singulier au sens où il n'y a pas, comme par exemple chez son voisin espagnol, une guerre civile, des meurtres de masse, etc. Mais c'est une administration de la peur au quotidien, très organisée, avec une police politique tout à fait redoutable, et un système répressif avec des camps d'internement, avec des prisons, avec l'arbitraire qui prévaut et qui fait que s'opposer est extrêmement difficile et dangereux pour ceux qui s'y risquent.
Général parmi les généraux, Franco n'était pas a priori l'homme providentiel de l'Espagne. Rien ne le prédestinait à prendre les rênes du pays. C'est tout au long de la guerre civile qu'il va progressivement s'imposer. en se rapprochant de la Falange, un groupe paramilitaire inspiré du fascisme italien, il va devenir l'interlocuteur privilégié de l'Allemagne nazie, qui offrira un soutien considérable aux putschistes. Il peut aussi compter sur la Légion étrangère qu'il contribue à mettre en place lors de la guerre du Rif. Amélie Nuc nous raconte comment ce général de second plan va réussir à se faire un chemin vers le pouvoir.
Il n'est pas l'artisan principal du coup d'État. L'artisan principal du coup d'État, c'est quelqu'un qu'on surnomme El Director, le directeur, quelqu'un qui s'appelle Mola. Mais il a sur ses collègues, Franco, l'avantage, par exemple, d'être le commandant en chef de la Légion, qui est l'une des troupes d'élite de l'armée espagnole. Il a aussi l'avantage sur ses collègues d'être en contact direct avec l'entourage d'Hitler, d'être de ceux qui rendent possible l'approvisionnement en armes par le biais de l'Allemagne. Alors il a de la chance aussi parce qu'il est servi par la disparition dès le 20 juillet 1936 du plus gradé des généraux, Sanjurjo, qui meurt dans un accident d'avion en venant du Portugal où la République l'avait éloigné. Et en juin 1937, un autre accident d'avion met fin à la vie du général Mola, donc qui avait été au printemps 36 l'organisateur dans l'ombre du coup d'État. Et à ce moment-là, Franco s'est déjà imposé politiquement dans son propre camp. Alors il s'est usé habilement de la propagande, par exemple de la reprise de l'Alcazar de Tolède en septembre 1936. Et finalement, il s'impose sur ses pairs à l'automne 36, moment où il devient le généralissime. Et il cumule là déjà à la fin de l'année 1936 des pouvoirs politiques, des pouvoirs militaires, le contrôle aussi du parti unique, ce qui permet d'asseoir ce qui deviendra ensuite une dictature personnelle.
Les plus grands d'Europe sont les fils d'Espagne. 1936, Franco à Salamanque.
Quand se lucha en las trincheras comme se lucha, quand se mueren los frentes comme se mueren. Cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
Il y avait une ambition précise de sa part, c'est-à-dire que c'était un projet politique d'être à la tête du pays.
En tout cas, oui, c'est la façon dont ça se passe montre assez rapidement qu'il a pour volonté en effet d'asseoir un pouvoir fort et un pouvoir qu'il ne veut partager. Et pour ça, il est prêt véritablement à prendre son temps. Il opte, par exemple, pour une guerre d'usure destinée à broyer l'ennemi. Alors, ça lui permet d'asseoir son pouvoir dans son propre camp, mais aussi d'assurer son pouvoir par rapport au camp qu'il est en train de combattre, le camp républicain. Et vraiment, il a deux buts, c'est-à-dire qu'il veut domestiquer les autres généraux et s'imposer comme le dictateur unique. Et il veut aussi en terminer définitivement avec la République, anéantir totalement l'ennemi et plus généralement ce qu'il considère être l'anti-Espagne, donc cette république progressiste qui veut éduquer les masses et donner de meilleures conditions de travail aux paysans et aux ouvriers.
Y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará. Y la forjará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
Franco est un militaire brillant. Il est lorsqu'il devient général, c'est quasiment l'un des plus jeunes généraux européens. Et donc sa formation se fait sur le sol de la péninsule espagnole. Il est d'abord affecté à Ferrol, la ville galicienne de laquelle il est originaire. Et ensuite, il passe plusieurs séjours en Afrique. Sa première période, donc, c'est au sein des réguliers indigènes. Là, on est à peu près dans la deuxième moitié des années 1910, et il y revient ensuite, et notamment dans les années au sein de la Légion de 1920 à 1926. Alors c'est important dans la mesure où il rencontre là un certain nombre de militaires qui deviendront, après, qui sont des militaires qu'il va retrouver au moment du coup d'État. Ce sont des militaires qui font une carrière rapide, hein, dont les faits d'armes permettent une ascension rapide au sein de l'armée espagnole. Et c'est important aussi dans la mesure donc où ça crée un esprit de corps très fort. Et c'est aussi donc un terrain qui permet l'acquisition de méthodes de guerre, de méthodes de maintien de l'ordre, qui sont ensuite appliquées finalement hein, aux civils et au terrain métropolitain. Par exemple, dans les années 30, c'est Franco qui est chargé de la répression d'une révolution ouvrière qui a lieu dans les Asturies en 1934. Et justement, il envoie des troupes indigènes hein, pour rétablir l'ordre dans les Asturies. Donc oui, sa vision du monde, son expérience militaire sont forcément influencés par son parcours de militaire dit africaniste. Si on essaie d'expliquer hein, finalement pourquoi la guerre civile a penché du côté des nationalistes, les effectifs militaires sont à peu près les mêmes entre le camp républicain et le camp franquiste. Mais l'une des grandes différences, hein, c'est que les franquistes disposent en effet de troupes coloniales, donc les regulares, la légion étrangère, qui sont des troupes extrêmement entraînées, très disciplinées, ce qui n'est pas du tout le cas de l'armée républicaine, qui est plus une armée mexicaine qu'autre chose, hein, c'est-à-dire que ce sont des miliciens qui débordent d'enthousiasme pour défendre la République, mais ça n'a rien à voir avec les forces sur lesquelles peut compter l'autre armée, l'armée franquiste.
C'était « Quand vient le fascisme en Europe ?» La marche vers le pouvoir. Avec Joël Dallègre, Costa Gavras, Christina Coulouri, Yves Léonard, Amélie Nuc, Marianne Matar-Bonucci, Didier Musidlac, Laucracia Laca et Yanis Mavroidakos. Extrait des films Z de Costa Gavras, 1900 de Bernardo Bertolucci et La marche sur Rome de Dino Risi. Lecture Thierry Beauchamp. Coordination Marie-Vonne Bolivier et Perrine Carvran. Merci à Véronique Jolivet de Lina, Fabien Perrier et Angélique Couronis. Prise de son Yves Lehors, Jérémy Tuile, Benjamin Perru, Marc Garvanès, Stéphane Touvenin et Marie Lepeintre. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et François Teste.